BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Ravi de vous retrouver en ce lundi 27 mars. On est ensemble pour deux heures d'expertise où l'on va gérer au mieux votre argent, où vous donner tous les conseils nécessaires pour que vous gériez au mieux votre argent. Mais on commence tout de suite par un survol de l'actualité. C'est l'Info Éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collot.
Et à la une, l'exécutif joue l'apaisement à la veille de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron reçoit Elisabeth Borne et les cadres de la majorité ce matin. De son côté, la première ministre tend la main aux syndicats dans un entretien à l'AFP. Elle se dit à la disposition des partenaires sociaux et ouvre la porte à des entrevues la semaine du 10 avril. Dans ce contexte, le suspense reste entier sur la succession de Philippe Martinez. Le 53e congrès de la CGT s'ouvre aujourd'hui à Clermont-Ferrand et jusqu'à vendredi. Il doit permettre de désigner un nouveau leader. En lice, Marie Buisson, la candidate désignée par la direction sortante, mais aussi Céline Verzoletti. Elle est soutenue par plusieurs puissantes fédérations de la CGT, dont celle des cheminots ou encore de l'énergie. L'Allemagne est touchée à son tour par une grande grève. Aéroports, trains, fret maritime, autoroutes et transports urbains. Le mouvement inédit outre-Rhin paralyse tout le secteur des transports. Les syndicats réclament des hausses de salaire face à l'inflation qui atteint 8,7% en février. L'Allemagne qui est parvenue à un accord ce week-end avec la Commission européenne sur les moteurs thermiques. Les véhicules équipés d'un moteur à combustion pourront être immatriculés après 2035 s'ils utilisent exclusivement des carburants neutres en termes d'émissions de CO2. C'est ce qu'a précisé le ministre allemand des Transports. En revanche, sur le dossier du nucléaire, c'est un échec cuisant pour la France. Ursula von der Leyen considère que l'énergie nucléaire n'est pas stratégique dans le cadre du Net Zero Industry Act qui vise à soutenir la production domestique de technologies propres. La filière nucléaire serait donc privée de subventions de Bruxelles. La France doit continuer à se battre, a dit ce matin Louis Gallois, le coprésident de la Fabrique de l'Industrie, était l'invité de Good Morning Business.
C'est une bataille, hein, c'est un combat. Et la France le mène, mais elle ne le mène pas seule. Il y a 11 pays qui sont assemblés avec la France pour défendre le nucléaire. La Commission manifeste une défiance permanente à l'égard du nucléaire.
Dans l'actualité, entreprise Vinci remporte deux nouveaux projets de construction de routes en Australie, montant du contrat de 140 millions d'euros. C'est une victoire pour EDF. L'énergéticien va construire un parc éolien en mer au large de la Normandie. Selon les Échos, ce sera même le plus grand du pays. Il a remporté l'appel d'offres avec son partenaire canadien Maple Power. Le parc, qui devrait commencer à produire de l'électricité en 2031, va alimenter 2 millions de foyers. Et puis dans le secteur bancaire aux États-Unis, la banque First Citizens va racheter l'intégralité des dépôts et des prêts de SVB. La transaction couvre 119 milliards de dollars de dépôts et 72 milliards de dollars d'actifs selon l'autorité bancaire américaine. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous tout de suite à 10h04, c'est l'heure de rejoindre les marchés actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Rejoindre Antoine Larigauderie qui, depuis le siège d'Euronext à la Défense, suit pour nous cette première heure de cotation. Que se dit-on en ce début de semaine sur les marchés?
Bref, que ça va mieux, mais que c'est loin d'être réglé. Voilà en gros ce que disent les traders ce matin, avec un CAC 40 qui certes rebondit, hein, plus 0,57%, au-delà des 7000 points, 7055 points. Mais enfin, on était parti bille en tête à l'ouverture avec une hausse de plus d'1% et on était même au-dessus des 7100, avec un secteur bancaire qui s'envolait, hein, de plus de 3 ou 4% pour BNP Paribas et Société Générale. Et après une heure de cotation à peine, le paysage est nettement plus contrasté. Alors, le secteur bancaire rebondit toujours assez largement, mais regardez, BNP Paribas, plus 0,95%, on est à 50,95€, on a la Société Générale qui est également en hausse, le Crédit Agricole, plus 0,39€ à 9,98€, mais on sent que voilà, les choses sont un petit peu moins sûres. Alors, évidemment, on a vu la Deutsche Bank, avec sa très forte baisse de vendredi, rebondir un petit peu aussi. On sent que tout cette espèce de psychodrame qui s'est joué autour de la grande banque allemande avait des origines avant tout techniques, avec la très forte hausse des CDS, des crédits de default swaps, des contrats d'assurance contre un éventuel défaut, qui ont pesé bien évidemment sur l'ensemble du cours de bourse et sur le cours des obligations. Ça a fait faire du yo-yo à l'ensemble du secteur bancaire vendredi, mais on sent que voilà, toutes les craintes ne sont pas forcément apaisées, même si tout rentre progressivement dans l'ordre. On le voit du côté de la tendance aussi bien que des indices. Ce CAC 40 donc qui reste dans le vert, mais on le voit, les choses sont loin d'être réglées dans l'ensemble. Nexans signe la plus forte hausse du SBF 120 avec plus 3,8%, on est à 88,90€. À noter Plastic Omnium, aussi belle performance, plus 3,9€, on est à 15,85€. Et puis Téléperformance, plus 3,3% à 216€, c'est d'ailleurs la plus forte hausse du CAC 40. À la baisse, à noter ArcelorMittal qui recule d'1,2% à 25,71€. On a Pernod Ricard qui perd 1,16€ à 205,30€ avec un abaissement de recommandation de la banque JP Morgan qui passe de surpondéré à neutre sur la valeur. Et puis très fort repli du secteur des maisons de retraite. On a Korian qui perd 2% à 6,70€. Puis alors lourde baisse pour Orpea à nouveau, moins 11,8% à 2,03€. Le CAC donc plus 0,62% à 7059 points, un petit peu de soulagement sur les marchés. L'euro 1 dollar 0,760.
Quelques idées au bout d'une heure de cotation ce matin dans la tête des traders avec Antoine Larigauderie. Ce monde action continue de nous intéresser. On file tout de suite regarder ce qu'on peut pêcher dans la côte parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Avec Xavier Milvaux. Bonjour Xavier.
Bonjour Cédric.
Vous nous attendez chez Tiepolo pour jeter un œil ce matin sur le groupe Chargeur.
Tout à fait. Alors, Chargeur, c'est un groupe, un vieux groupe hein, qui a 150 ans, mais qui nous intéresse plus particulièrement depuis sa reprise en main il y a 8 ans par un nouvel actionnaire et dirigeant qui s'est entouré pour le redresser. Alors le groupe s'est structuré, a grandi, a investi et a opéré plusieurs acquisitions. C'est aujourd'hui un groupe industriel diversifié, disposant de positions de leader mondial dans des métiers de niche centrés sur des matériaux à forte valeur ajoutée. Il est composé de plusieurs divisions distinctes. La première, la plus importante avec 45% du chiffre d'affaires, c'est la division film de protection de surface. On en trouve un peu partout, hein, notamment dans le bâtiment. Il y a ensuite deux divisions autour des matériaux et textiles haut de gamme. On a aussi une division spécialisée dans l'aménagement de musées. Et enfin, la division de solutions de santé, créée pendant le Covid, pour concevoir des masques respiratoires. Alors, tout ça a été regroupé récemment pour une meilleure lisibilité dans deux divisions, qui s'appellent d'une part technologie et d'autre part luxe. On souligne d'ailleurs hein, au passage une amélioration de la communication financière qui vise à une certaine simplification, ce qui est toujours bon pour un parcours boursier. Alors, on se rappelle que la crise Covid a démontré la forte capacité d'adaptation du groupe, puisqu'en partant de rien, mais en capitalisant sur le savoir-faire dans le textile, la branche masque de protection a représenté plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, faisant plus que compenser la baisse du reste, qui avait d'ailleurs finalement relativement bien tenu.
Malgré tout, le Covid maintenant est derrière nous, non ?
C'est exactement ça, effectivement. Le Covid est bien derrière nous, heureusement, mais ça a quand même créé trois années de forte volatilité sur le titre en bourse, hein, avec une première phase d'engouement, voire un effet de mode, puis ensuite un contre-coup jusqu'à l'année dernière, avec un effet de comparaison négatif sur l'activité des fameux masques en forte diminution, et le reste qui prenait pas encore en fait le relais du rebond économique. Maintenant, on arrive sur des données plus normatives. Alors justement, Chargeur a publié au début du mois ses résultats annuels 2022. On sent clairement qu'on est à un moment d'inflexion tout à fait intéressant. Évidemment, comme attendu, les masques de protection, c'est plus grand-chose. Les films de protection, il faut savoir qu'ils connaissent actuellement un passage un peu plus difficile, mais tout en démontrant quand même leur bon pricing power. Ils peuvent potentiellement d'ailleurs et assez logiquement hein, commencer à rebondir au cours de l'année. Les activités textiles sont en plein rebond avec des activités et des marges qui s'améliorent et on pense que c'est pas terminé, les dirigeants non plus. Et quant à l'activité pour les musées, Bien le carnet de commandes commence à être bien garni et le pôle est en train de prendre une vraie importance. Hein, clairement au global, on est sur des agrégats supérieurs au niveau d'avant-crise, avec en plus une progression des résultats qui devrait clairement s'accélérer. Alors les dirigeants ambitionnent toujours pour 2025, hein, à peine après-demain, un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros. On est à un peu plus de 746 millions d'euros donc pour l'année 2022, récemment publié comme je viens de le dire. Tout ça assorti dans l'objectif d'un résultat opérationnel courant d'une dizaine de pourcents, compte un peu plus de 6 actuellement. Ça, c'est sans croissance externe qui pourrait pourtant arriver. En tout cas, ça fait partie de leurs ambitions.
Bon, et un mot aussi de la valorisation, parce que c'est intéressant de regarder le parcours du titre.
Tout à fait. Sur le plan de la valorisation, comme je l'ai dit, la volatilité liée au Covid et aux à-coups dans l'économie liés à l'inflation, aux effets de stock, a un peu brouillé la lecture du titre. Mais c'est un groupe bien géré, avec des perspectives intéressantes, comme on vient de le voir. Et en fait, le titre est revenu à peu près au niveau pré-Covid, alors que le groupe est en plus grande capacité de croissance et ressort donc plus fort qu'avant. Autrement dit, on pense que c'est pas cher, on pense que c'est une belle valeur pour le long terme, et il s'agit d'un exemple d'investissement du fonds Tiepolo PME.
Voilà donc l'éclairage proposé ce matin sur ce dossier chargeur. Et si on regarde les analystes qui suivent cette valeur, eh bien, ils ont une recommandation d'achat et un objectif de cours moyen de 22,80 euros. Merci beaucoup Xavier qui nous répondait, Xavier Milvaux depuis Tiepolo. Le marché parisien ce matin qui est en hausse de 0,7%, 7063 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
C'est pour nous l'heure de retrouver Bruno Cavalier. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous du lundi matin en ligne avec nous depuis Odo BHF. Où en est-on, vu de chez vous en tout cas, de ce risque bancaire? On a eu des nouvelles concernant des activités d'SVB. Il y a des doutes aussi sur la Deutsche Bank. Enfin voilà, comment est-ce que on voit les choses évoluer de votre côté, Bruno?
Alors j'essaie de me mettre un petit peu dans les chaussures des banquiers centraux, parce que naturellement le secteur bancaire c'est celui qui est le plus exposé à tous les changements et conditions économiques et dans la politique monétaire, mais réciproquement c'est aussi celui qui peut le plus rapidement modifier ces mêmes conditions économiques et monétaires. Donc si vous voulez, il y a des influences croisées qui posent un gros dilemme pour les banquiers centraux. Alors on a vu la semaine dernière, on avait vu la semaine précédente, la semaine dernière c'était la Fed, la semaine précédente c'était la Banque Centrale Européenne, donner une certaine position qui consiste à dire, eh bien, nous allons séparer les problèmes. Il y a d'un côté les problèmes de la stabilisation macroéconomique, et aujourd'hui le problème de stabilisation économique c'est l'inflation, donc il faut calmer l'inflation, ça c'est d'un côté. Puis de l'autre côté, on va mettre les problèmes de stabilisation financière qui se pose, et pour ça on a des outils, on peut ajouter beaucoup de liquidités.
Bon. Ça veut dire que ça a une implication nécessaire sur la politique monétaire?
Ben, en tout cas, c'est le message qu'on veut nous faire passer. Et c'est vrai que du point de vue des principes, tout ça, cette analyse paraît parfaitement correcte. Enfin, je veux dire, et puis par temps calme, c'est sûr qu'elle est parfaitement correcte. Le problème, c'est que par gros temps, lorsqu'il y a une tempête ou un risque de tempête, il ne paraît pas tout à fait évident que les banques centrales puissent tenir ce principe de séparation très longtemps. Il faut bien voir que depuis 15 jours maintenant qu'on a une montée du stress bancaire, il est évident que le coût de financement des banques a augmenté. Il est inéluctable que la conséquence soit moins de crédit et un crédit plus cher. Autrement dit, le stress bancaire, le stress financier, il va avoir exactement les mêmes effets sur l'économie réelle que la politique monétaire, avec cette différence qu'on ne contrôle pas vraiment. Donc je pense que c'est le problème central aujourd'hui. Alors évidemment, les banques centrales restent focalisées sur les chiffres d'inflation. Voilà, on a l'idée que voilà, on peut gérer l'inflation d'un côté, les problèmes de marché de l'autre, mais en pratique, je pense que ça va être plus difficile de tenir cette position.
Oui, sauf qu'on est obligé de regarder encore et toujours ces statistiques d'inflation, non?
Oui, oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, cette semaine, on va encore être servi. Ce vendredi, on aura la deuxième Vous savez, aux États-Unis, il y a deux grandes mesures de l'inflation. Donc, on en a déjà une, c'était l'indice des prix à la consommation. Là, on va avoir le déflateur de la consommation, dépenses de consommation. Bon, en général, c'est le même message. Et quel est le message aux États-Unis? Ben, il est que depuis quelques mois maintenant, le freinage de l'inflation, le recul de l'inflation, des taux d'inflation et marquer un peu le pas, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un problème pour la Fed. Enfin, c'est bien vu, ils ont continué de monter leurs taux. Et puis on aura aussi vendredi, précédé par des chiffres nationaux, mais on aura vendredi les données d'inflation pour la zone euro. C'est le mois de mars 2023. Bon, forcément, il faut se rappeler ce qui s'est passé au mois de mars 2022. Je ne fais pas un dessin. On est juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les prix de l'énergie ont fait un bond tellement considérable que l'indice des... L'énergie, c'est 10% de l'indice. Hein. Ce bond a été tellement considérable que l'indice lui-même a enregistré il y a un an sa hausse la plus forte de toute son histoire. Bon, on est un an plus tard, les marchés de l'énergie sont un petit peu calmés, donc on va avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un effet de base extrêmement favorable. On va se comparer avec un choc qui ne s'est pas reproduit en mars 2023. Donc ce qu'on va avoir, c'est une très forte baisse, peut-être 1,5 point de l'inflation. Mais le problème, c'est que là, après, on a aussi des gens là-dedans, en train de repérer, qui disent, mais oui, on a effectivement un objectif d'inflation qui est sur l'indice total, mais nous, on préfère regarder l'indice où il n'y a pas d'énergie.
Oui, bien sûr.
L'indice là, lui, ne pointe pas dans la bonne direction. Le risque de tout ça, pour conclure, hein, c'est qu'on ait des banquiers centraux qui parfois aient peut-être l'impression que les choses se stabilisent. On avait vu ça, par exemple, au début de la semaine dernière. Et puis, dès que ça stabilise sur le front bancaire, sur le front financier, hop, ils en remettent une couche en termes de resserrement monétaire. Mais comme le resserrement monétaire lui-même impacte le risque bancaire, vous voyez que c'est quand même une position assez délicate et fragile à tenir.
Merci beaucoup Bruno Cavalier et Odo BHF qui nous accompagne chaque lundi matin pour lire ces questions conjoncturelles et macroéconomiques. À très bientôt. Le marché parisien pour le moment qui grignote un peu de terrain, plus 0,69%, 7063 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marie Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Cécile Roquelaure. Bonjour Cécile.
Bonjour Cédric.
Pour Empruntis, merci d'être avec nous. Comment ça se passe en ce moment? On guette régulièrement les indicateurs de crédit, de distribution d'emprunt, de taux d'usure, Vous avez le moral?
Alors toujours.
Ça va bien, Cécile.
Écoutez, jusqu'à présent, tout va bien.
Bon.
On a connu des années plus fastes, hein, on va pas se mentir. Ah. Pour autant, est-ce qu'elles étaient normales? On avait quand même beaucoup de chance et on en a bien profité. Les emprunteurs, on en a bien profité. Les banques, toute la chaîne immobilière, on a bien profité. Alors c'est sûr que l'atterrissage, il est pas soft du tout, hein, on va pas se mentir. Et effectivement, on guette toujours les indicateurs et on suit le marché tous les jours. Et ce mois-ci, en tout cas cette semaine, on va arriver avec de nouveaux indicateurs puisqu'on attend la publication du nouveau taux d'usure.
Bah oui, puisque maintenant il est mensualisé. Donc et là, on a l'impression, enfin certains nous disent que les choses vont peut-être un peu se calmer. Est-ce que vous, c'est ce que vous pressentez en termes de, alors, et de taux d'usure et donc de taux d'intérêt in fine pour les emprunteurs?
Alors, ça risque d'être quand même difficile. Se calmer tout de suite, pas forcément. Là, on attend une hausse de taux d'usure qui serait entre 15 et 25 points de base au vu de l'évolution des taux.
Donc, on passerait à 4,15, 4,25.
Exactement, quoi. Exactement sur les prêts de 20 ans et plus. Se calmer, ça va être difficile parce qu'on a quand même beaucoup de tensions sur les marchés financiers. L'OAT 10 ans, qui est l'indicateur de référence pour les banques pour pratiquer leur taux de crédit, c'est plutôt volatile. Alors, on a plutôt une baisse ces derniers jours parce que le climat financier et macroéconomique est un peu tendu. Mais pour autant, on sait très bien qu'on a plutôt eu tendance à aller flirter avec les 3% ces dernières semaines qu'avec les 2,5%. Donc, on sait qu'il manque encore de l'espace pour les banques pour pratiquer le vrai prêt du crédit pour elles. Et donc, on devrait poursuivre la hausse. Pour l'instant, nos partenaires bancaires ne nous disent pas que ça va se calmer. On va certainement encore avoir un mois de hausse, clairement, aujourd'hui.
On va dire très concrètement, un taux d'usure qui était à 4%, ça permettait aux banques d'aller concrètement jusqu'à potentiellement 3,5. On est plutôt autour de 3 aujourd'hui. Mmh. En le remontant encore un peu, vous croyez que les banques, elles vont très vite passer au-delà des 3% sur 20 ans?
Alors, le 3%, c'est une moyenne, ouais. Marie. Et aujourd'hui, on a des banques qui font du 2,5, ouais. mais on a aussi des banques qui font du 3,5, du 3,6. Et donc, on voit bien que l'offre bancaire, elle est très hétérogène. Et pour certaines banques qui ont besoin de plus se refinancer sur les marchés, il y a besoin de plus de marge parce que le coût du financement est plus important. Ouais. Et donc, oui, il y a des banques pour lesquelles ça va passer et on va encore avoir des marges de manœuvre. Et d'ailleurs, certaines n'augmentent que très peu leur taux, hein, 10 points de base par mois. Elles restent très raisonnables parce qu'elles ont peu besoin de l'OAT pour se refinancer. Et puis d'autres qui ont besoin de plus à aller emprunter sur les marchés, elles sont obligées d'aller chercher du 3,5, du 4. Et aujourd'hui, les banques nous disent clairement qu'elles ont besoin à minima de 100 points de base entre le coût de l'argent et les taux de crédit. Alors, ouais. c'est difficile de savoir comment elles font leur architecture financière, mais globalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt qu'on soit à 4 en taux de crédit.
Donc à 4,5 de taux d'usure.
Exactement. Ça veut dire que potentiellement, on a encore 8% de hausse des taux de crédit devant nous. Et ça, ça vient rogner clairement la capacité d'emprunt des ménages.
Ça, a priori, c'est quelle échéance? Parce que en gros, d'après ce que je comprends chez vous et puis les autres, on est plutôt autour de l'été, c'est ça?
C'est aujourd'hui notre perspective, mais on sait aussi que les marchés ont une forte implication sur les aussi. Banques. Oui. Donc, nous, on était plutôt optimistes au départ. On pensait on serait plutôt à 3,5 cet été. Puis, on a vu une volatilité de l'OAT qui était pas prévu et même nos partenaires nous disaient on s'attendait pas à ce que ça bouge autant, donc on va prendre un peu de marge de manœuvre et donc clairement on est en train de raccourcir le temps. Ouais. Ce qui compte en fait c'est pas tant le taux de crédit hein, parce que ça a un impact pour les ménages, clairement on va pas se mentir, hein, on a perdu 20% de capacité d'emprunt quasiment en un an, donc c'est pas anodin, mais en fait ce qui compte c'est déjà de trouver du crédit et aujourd'hui on a besoin que les vannes se réouvrent un petit peu parce qu'on voit bien qu'il y a des marchés qui souffrent beaucoup, qu'on a une demande forte des ménages, hein, aujourd'hui les intentions d'achat n'ont pas baissé, les gens ont besoin de se loger, enfin c'est un besoin primaire. Hein.
Et qu'est-ce qui coince alors, Cécile, si c'est pas le taux?
Si c'est pas le taux, c'est la notion de marge pour les banques. En fait, quand vous vendez à perte, ce qui est le cas de beaucoup de banques aujourd'hui, vous êtes sélectif. Vous n'avez pas envie de rajouter du risque au risque. Et donc, vous allez financer des dossiers où il n'y a quasiment aucun risque de défaut de paiement ou de risque de perte si la vente doit se faire rapidement. Donc, on va regarder les prix de l'immobilier, on va regarder la qualité du ménage et on va plutôt aller chercher la classe moyenne, les personnes qui sont intermédiaires, ni les trop modestes, ni les trop riches. On va aller chercher ceux qui gagnent l'intermédiaire, qui ont un peu d'apport, qui ont des marges de manœuvre en termes de budget. Et ça, ça réduit forcément la capacité d'emprunt des ménages parce que vous n'accédez pas toujours au crédit.
Et on voit que ça réduit aussi le volume de prêts accordés. Là, on voyait les chiffres de Crédit Logement CSA qui étaient quand même assez spectaculaires. Vous aussi, vous avez l'impression que là, en termes de quantité, au-delà des qualités du financement, mais des quantités, on est vraiment en nette baisse là aujourd'hui?
Il y a une vraie restriction de l'offre. Après, ce qui est difficile avec les statistiques, c'est que le marché, il est hétérogène. Il n'y a pas un marché français. Et vous le dites assez souvent dans la chronique, Marie, que le marché français, il est très hétérogène. Aujourd'hui, on a des zones où on n'a pas de problème pour accéder au financement, même sans apport, et à des conditions de taux qui sont très, très bonnes. Et puis, il y a des marchés qui sont particulièrement bloqués, soit parce que les prix de l'immobilier peuvent potentiellement se retourner et donc les banques sont très frêleuses sur cet aspect-là, soit parce qu'en fait, il y a un coût de la ressource qui est trop important pour les banques qui agissent au niveau local et qui vont donc aller chercher des financements.
Vous avez commencé en rappelant qu'on avait vécu des années fastes. Mais que c'était peut-être aussi un retour à une forme de normalité. Ok, sauf que depuis quelques semaines, quelques mois, où on voit toutes ces questions monter, Marie n'a plus assez de mains pour tirer toutes les sonnettes d'alarme. Donc ce marché normal, il est cette situation plus normale financièrement, elle nous amène en danger.
En fait, on n'est pas encore dans une situation normale. On est à une étape où c'est le point de bascule.
La transition.
Oui, et cette transition, elle est douloureuse parce qu'en fait, elle se fait dans un temps très court avec une surenchère des difficultés. C'est-à-dire que si on avait eu une remontée des taux plus progressive sur 18-24 mois, en fait, on aurait eu moins de blocage du marché.
Ce que vous nous dites, faut faire le gros dos
oui.
et attendre un peu que ça passe. Quoi.
Si vous
Tant pis, on empruntera plus cher, mais on empruntera, alors que pour le moment, on ne peut pas emprunter.
Si aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé de solution de financement, et pour ça, il faut vraiment avoir fait le tour des banques et avoir essayé tous les leviers, hein, parce que, encore une fois, toutes les banques ne pratiquent pas la même politique, parce que l'argent ne leur coûte pas le même prix en fonction de leur politique financière.
Comprenez, utilisez un courtier.
Vous pouvez le faire seul.
Non, c'est délicatement apporté.
Non, mais vous pouvez le faire seul. Hein. Ouais. On a des ménages qui peuvent le faire seul et il n'y a pas de souci.
L'avantage, justement, c'est que vous savez à peu près quelles sont les politiques des banques et tel dossier. Vous n'allez pas le présenter aux 5-6 premières qui vont refuser.
Exactement, on va choisir, on va faire une sélection. Mais aujourd'hui, effectivement, si vous passez pas, si vous êtes bloqué par le taux d'usure, faites le dos rond. Et comme le disait Marie, il y a une révision mensuelle. Donc ça veut dire que potentiellement,
le mois d'après,
10 jours, tous les mois, vous allez pouvoir débloquer votre situation. Et puis, en fait, ce qui va vraiment rentrer dans un monde plus nous permettre de rentrer dans un monde plus normal, c'est l'offre de biens immobiliers. Il y a suffisamment d'alertes sur le marché du neuf pour dire qu'aujourd'hui, et Marie s'en fait l'écho, il y a une problématique d'offre. Tant qu'on n'aura pas suffisamment de logements, ça sera compliqué. Et en fait, avec toutes les tensions qu'on a avec la loi climat, les passoires dites enfin les biens dits passoires énergétiques, j'aime pas trop le propos, mais tout ça, ça crée une contrainte forte sur l'offre. Et aujourd'hui, c'est le problème. Et vous le disiez, Marie, avec l'Observatoire Clameur, aujourd'hui, on a une problématique pour les Français à se loger, même à louer. Ouais. Et ça, ça commence à devenir compliqué. Donc, il est temps que les prix rebaissent et qu'on ait un marché qui se relibère un peu.
Et vos baromètres, vos tableaux, vos perspectives, elles vous disent qu'on s'en approche ou...
Alors, on n'a jamais été plus proche. Hein,
parce qu'on... Merci. Non, mais je veux dire, voilà, la spéculation va bon train sur les banques centrales en disant quel sera le taux terminal, celui où on va en avoir fini de ce mouvement de hausse. J'imagine que vous spéculez de la même façon, puisqu'on se décale. Vous parliez de l'OAT, mais voilà, l'OAT étant indexé sur tous les taux européens aussi. Enfin, voilà, donc chacun cherche son taux terminal. Vous aussi ?
Alors, forcément. Et aujourd'hui, les perspectives qu'on a, c'est plutôt le dernier trimestre de 2023. On est dans une phase d'atterrissage, là. On sent bien qu'il y a des choses qui se débloquent, si ce n'est l'offre de biens, parce que ça reste compliqué. Ouais. Mais côté crédit, on voit bien qu'il y a un déblocage de la situation. Ça va être compliqué quand même d'avoir un déblocage total avant l'été. En plus, l'été, un banquier sur deux travaille. Tout va être très compliqué pendant l'été. On part plutôt sur un dernier trimestre. Ça veut dire que pour ceux qui ont envie d'acheter, aujourd'hui, il faut préparer son dossier, il faut commencer à visiter, il faut estimer sa capacité d'emprunt, il faut préparer son dossier et être dans les starting blocks parce que dès qu'il y a une fenêtre qui se libère, il faut en profiter.
Merci beaucoup d'être passé nous voir matin, Cécile Roquelaure, donc pour Empruntis. Merci Marie, à demain.
À demain.
Pour La Vie Immo, chaque matin dans cette première demi-heure de BFM Patrimoine. Dans un instant, on file sur les marchés, l'heure de retrouver nos traders. On aperçoit Jean-Louis Cussac et Andrea Twenny. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Deux traders à votre service, c'est la promesse quotidienne de BFM Patrimoine. On retrouve donc, comme chaque matin, Jean-Louis Cussac du côté de Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et face à vous ce matin, c'est Andrea Twenny qui nous attend au cœur de cette salle, le marché de Saxo Bank. Bonjour Andrea. Merci d'être au rendez-vous. Comment voyez-vous les choses? Quel pouls trouvez-vous à notre marché ce matin, Andrea?
C'est un petit peu mieux ce matin, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu vendredi. On a eu une fin de semaine un peu compliquée sur les marchés. Aujourd'hui, on reprend un petit peu de la hauteur. Alors, c'est assez relatif, mais la bonne nouvelle, c'est justement qu'il n'y a pas eu de mauvaise nouvelle pendant le week-end. Et c'est ce qui permet au marché aujourd'hui de reprendre un petit peu de hauteur. Mais ça se fait quand même péniblement. On voit que c'est pas un long fleuve tranquille. On n'est pas en progression en ligne droite. On a quand même eu des accros. On le voit d'ailleurs même sur la progression des valeurs bancaires. On gagnait plus de 3%. Si on prend l'exemple de BNP Paribas juste après l'ouverture, on est passé dans le rouge et là, on regagne 1%. Donc, il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité. Il n'y a pas, encore une fois, c'est pas une progression tranquille qu'on observe sur le marché, mais malgré tout, on voit qu'il y a quand même de nouveau une tentative de reprendre un petit peu de risque, de reporter un petit peu le marché à la hausse. Mais voilà, il y a encore cette nervosité, il y a encore un petit peu d'indécision quand il s'agit d'y aller. Mais en tout cas, ce qui est positif, et c'est ce qu'on remarque déjà sur les séances même de la semaine dernière, c'est qu'on voit que dans des phases un petit peu compliquées, dans des phases de baisse comme on a vu vendredi, on n'a pas un marché qui cède à la panique. On a cette capacité de rebond derrière. On n'est pas en train d'enfoncer des points bas. On a au contraire la capacité derrière de rebondir sur des niveaux de support et de repartir de l'avant. Alors après, au niveau de la hausse et de la poursuite du mouvement de rebond, c'est un peu plus compliqué. On voit qu'on a un niveau autour des 7150-60 qui est assez compliqué à franchir. franchir. On n'a pas réussi à le faire la semaine dernière et donc ça serait un cap à franchir pour essayer du coup de s'éloigner des niveaux qu'on a, des plus bas qu'on a connus sur les dernières semaines. Mais voilà, malgré tout, en tout cas ce matin, le fait qu'il n'y ait pas eu de mauvaises nouvelles, notamment sur le système bancaire pendant le week-end, ça permet au marché de reprendre un petit peu de hauteur, de s'éloigner des niveaux un petit peu plus compliqués qu'on avait connus vendredi. Mais voilà, pour autant, encore une fois, il n'y a pas non plus toutes les garanties nécessaires pour permettre au marché d'accélérer et d'aller plus loin à la hausse. Cette semaine, on a une semaine qui va être relativement calme. On n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. On aura quand même des intervenants du côté de la Fed. On aura aussi quelques données macroéconomiques, mais pas non plus des données majeures qui seront publiées tout au long de la semaine. Ce matin, on a eu l'IFO allemand qui a surpris à la hausse. Ça aussi, ça a pu être un facteur de soutien pour le marché. Mais c'est vrai que d'une manière générale, on suit encore la situation au niveau du secteur bancaire. Est-ce qu'on va avoir d'autres informations qui vont tomber comme celles qu'on a pu avoir sur Deutsche Bank qui a créé un petit vent de panique vendredi dernier, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres nouvelles comme ça qui peuvent venir perturber un petit peu les indices et les actions? Et on va peut-être aussi avoir à un moment donné cette capacité aussi de retourner un petit peu le curseur sur les thématiques qui occupaient beaucoup l'attention des marchés en début d'année, à savoir l'inflation et la politique monétaire des banques centrales. C'est vrai que ça a été relégué un peu au second plan avec justement ce problème au niveau des valeurs bancaires. Ça risque de revenir au goût du jour parce qu'on a aussi ce risque de récession à travers la situation justement compliquée des banques, situation compliquée au niveau de l'accès au crédit, etc., qui peut provoquer justement un risque de récession plus important sur le marché. Et du coup, ça peut relancer un petit peu cette thématique de banque centrale, inflation, récession, un triptyque qui a été très très important et très dominant sur les marchés sur les derniers mois et qui là est un petit peu relégué au second plan depuis quelques semaines. Donc du coup, à suivre là aussi la situation à ce niveau-là. Après, un dernier petit point aussi de rappel, un petit point d'intention. On est sur la dernière semaine du mois de mars, c'est là aussi la dernière semaine du premier trimestre. Donc on peut avoir quelques habillages, quelques arbitrages de fin de trimestre. Donc ça peut aussi créer un petit peu des mouvements erratiques tout au long de la semaine. Donc ça aussi, ça peut être un élément à garder en tête. Mais voilà, sinon au niveau du marché, on garde quand même cette nervosité, cette volatilité. Comme je l'ai dit, c'est assez révélateur quand on regarde encore une fois la performance sur les valeurs bancaires ce matin, où on a encore connu du bon, du moins bon, avant de revenir sur une performance positive. Donc il y a encore cette nervosité, il y a encore cette volatilité sur les marchés. Et puis pour espérer en tout cas du mieux sur le CAC, il faudrait essayer de casser cette zone 7150-60 qu'on a eu encore une fois du mal à s'affranchir de ce niveau la semaine dernière.
Voilà donc la vision proposée par Andrea Twenny. Jean-Louis Cussac, de votre côté, bah voilà, quel pouls trouvez-vous au marché ce matin?
Bah, écoutez, la même chose qu'Andrea, c'est vrai que sans mesure, sans nouvelles additionnelles, c'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc pour l'instant, les bancaires s'en sortent bien, mais elles ont montré encore une fois une capacité à bouger. Elles ont perdu 3-4% en 45 minutes, là, au début de séance, pendant que le marché nous montrait aussi qu'il pouvait facilement reculer de 1,2%, pas dans le vide, mais pratiquement, parce que là, maintenant, on est à 560 millions d'échangés, c'est pas énorme, et là, il a baissé très facilement. Bon, depuis, il se reprend. Si vous voulez, c'est pas le moment, il n'y a pas de quoi prendre de grandes décisions stratégiques. Alors, il y a un peu de spéculation, il y a de l'arbitrage qui va amplifier les mouvements avec des gestions de sensibilité sur les options. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait de vraies convictions sur ce marché. Il y a donc de la lourdeur, mais comme ça tient bien, chacun reste extrêmement patient sur ses positions en se disant qu'aucun scénario n'est remis en cause, si vous voulez, que ce soit pour l'optimiste qui se dit tant qu'on est au-dessus de peut-être de 6950, on est du bon côté, le pessimiste qui se dit tant qu'on est en dessous de 7250, on est du bon côté. Ce sont mes deux bornes un peu moyen long terme. Et en intraday, eh bien, nous, ce matin, on a proposé d'acheter de 7051 jusqu'à 7021 et on vendait à partir de 7137 jusqu'à 7157. Donc, on a fait les deux bornes proches. C'est déjà pas mal. Alors, ça veut dire qu'on y va tout doucement puisqu'on prévoit peut-être de vendre sur 20 points et puis d'acheter sur une vingtaine de points. À chaque fois, si vous voulez, enfin, souvent, dans les premiers mouvements, on en fait pas énormément, mais bon, c'est mieux que rien. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de tendance, il n'y a pas de mouvement marqué prix à privilégier. Il faut avoir vraiment un comportement opportuniste, basé sur des écarts-types, basé sur voilà des petits supports, des petites résistances qu'on pourrait éventuellement détecter sur du très court terme. Et sur le moyen-long terme, on est toujours dans cette zone neutre, avec plutôt quand même une attente qui pourrait être qualifiée d'optimiste, hein, puisque les problèmes quand même se sont accumulés depuis quelques semaines, depuis quelques mois, mais on a toujours une construction du marché, ça il faut pas l'oublier,
d'accord,
qui est solide et qui ne permet pas d'effet domino. On l'a vu au pire moment, les marchés ont été capables de rebondir, et il en sera de même pour la suite, sauf évidemment s'il se passait quelque chose de très grave, mais à toutes choses égales par ailleurs, le marché reste extrêmement solide avec une hyper-méfiance de tous les investisseurs.
Merci à tous les deux, donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Andrea Touigny depuis Saxo Bank. On vous retrouve tout à l'heure, Andrea, suivez cette tendance pour nous, et on se donne rendez-vous à 11h30, le marché parisien qui pour le moment reste donc en territoire positif, on gagne 0,8%, 7070 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Le RS à sous-condition est mal engagé, si on en croit le Parisien aujourd'hui en France. L'un des départements qui teste le projet va y renoncer aujourd'hui, c'est la Seine-Saint-Denis. Pour quelles raisons ?
Alors, principalement des raisons politiques, il faut être honnête, pour la Seine-Saint-Denis, mais ça pose après un problème de fond. La Seine-Saint-Denis considère que, en fait, c'est une expérimentation factice. Le président PS du conseil départemental, Stéphane Troussel, dit que le texte de loi est déjà ficelé, qu'il va être glissé dans la loi travail à l'été, que c'est pas la peine de faire toute cette mascarade. Au total, il y a 19 départements qui testent cette idée de RSA sous condition depuis le mois de janvier. Mais c'est là le vrai sujet, c'est que le RSA sous condition, c'est hyper complexe en fait. Alors le principe est très simple, c'est les droits et les devoirs qu'Emmanuel Macron a rappelé la semaine dernière quand il a fait sa grande interview à 13h. Vous avez le RSA et en échange vous devez 15 à 20 heures d'activité par semaine. C'est pas forcément du travail, ça peut être, c'est assez vague. Et l'idée c'est que d'ici la fin du quinquennat, les presque 2 millions de bénéficiaires du RSA soient tous accompagnés pour revenir vers l'emploi. Et ça va être le grand chantier de ce qui va s'appeler France Travail. Il va falloir s'habituer à cette expression. Ça va être le nouveau nom de Pôle emploi à compter de 2024. Objectif, réussir le RSA sous condition. La réalité, c'est que le A de RSA, comme le I de RMI depuis des années, ça n'a jamais fonctionné. C'est une sorte de revenu minimum, mais il n'y a jamais eu le côté insertion ou le côté activité derrière comme corollaire.
En fait, on réalise à quel point le service public de l'emploi peine à mettre en place un accompagnement personnalisé.
C'est clairement aujourd'hui le parent pauvre du système social français comparé à ces fameux pays du Nord, qu'on prend toujours en exemple, où justement la culture, c'est la culture de l'accompagnement du retour à l'emploi. Les droits et les devoirs, c'est culturellement installé, ça fonctionne. C'est là où ils mettent un paquet d'argent public, d'ailleurs. Beaucoup plus que nous, si on regardait l'argent public qu'on dépense. Et donc, voilà, l'accompagnement, le retour vers l'emploi, c'est une tradition des politiques de l'emploi des pays du Nord, et c'est le parent pauvre chez nous. Et sur le terrain, ça veut dire qu'il faut réussir à installer une forme de suivi personnalisé pour espérer faire travailler tout le monde. L'objectif du président de la République, c'est 100% de RSA sous condition. Alors, initialement, ça devait être 2024, maintenant on dit 2027. Vous voyez un peu l'ambition. Et donc, les difficultés sont hyper nombreuses. D'abord, il faut des effectifs dans les services sociaux pour réussir à accompagner les gens. Après, il faut quand même réussir à comprendre le profil de ces bénéficiaires du RSA. Tous ne sont pas les mêmes. Vous en avez qui sont très, très éloignés de l'emploi. D'autres beaucoup moins. Vous en avez qui sont RSA parce qu'ils ont une incapacité physique, parce qu'ils sont malades, parce que certains peuvent avoir aussi des faiblesses mentales qui fait que les faire travailler, c'est quand même très très compliqué. Donc de pas faire une seule et unique population. Et puis, après, il faut les trouver, les 15 à 20 heures de travail par semaine, enfin d'activité. C'est sûr que c'est plus difficile en Seine-Saint-Denis que dans la Creuse. La Creuse fait partie des départements qui expérimentent tout ça. Et donc le projet prend du retard. On voit que les expérimentations sont en train de patiner. Et maintenant, c'est au mieux en 2027 que la volonté politique, enfin que le projet espère voir le jour vraiment pour la totalité, ou la quasi-totalité des bénéficiaires.
Est-ce que quand même, malgré tout, ce choix de la Seine-Saint-Denis n'enterre pas un peu ? Est-ce que le RSA sous condition n'est pas mort ?
Il reste 18 départements qui font l'expérimentation, on va quand même leur laisser leur chance. Mais c'est, après, c'est une volonté politique qui a été réaffirmée. Il n'y a pas eu grand-chose d'affirmé par le président de la République mercredi dernier. Il y a eu cette histoire de RSA sous condition. Je trouve que c'est bien d'expérimenter quelque chose avant éventuellement de le généraliser. Mais il est absolument essentiel, au-delà de ce RSA sous condition, qu'on parvienne à faire revenir vers l'emploi les gens qui vivent de minima sociaux. Parce que on sait pas le faire aujourd'hui. Oui. La vérité, c'est qu'on sait pas le faire. Un bénéficiaire du RSA, d'après la Cour des comptes, va recevoir 3 contacts dans l'année des services publics, en général, d'accompagnement. Quelquefois, quand je dis un contact, c'est un mail. Mais comment voulez-vous que ça fonctionne? On a un vrai sujet. Et puis, il faut pas non plus se masquer, masquer la réalité des dysfonctionnements. La CAF, qui a remis son bilan, comme tous les ans, constate que la première fraude sociale, elle se fait avec le RSA. C'est plus de 40% des fraudes sociales, donc on a un sujet avec le RSA. Il faut absolument que le A de RSA finisse par produire des résultats sans stigmatiser cette population qui serait d'un seul bloc, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je précise au passage que le 1er avril, il est revalorisé. On va passer à 607 euros par mois pour une personne seule. On sera à 911 euros par mois pour un couple sans enfant. Même montant pour une personne seule avec un enfant, 1094 euros par mois pour un couple avec un enfant. Et puis chaque fois que vous avez un enfant, vous augmentez le montant.
Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien qui reste orienté à la hausse. On est encore loin des plus hauts du jour qui ont été touchés dans la première demi-heure de cotation même. Mais ça s'améliore après les 7039 de tout à l'heure. 7074 points. On progresse de quasiment 0,9%.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille maintenant Marc Lebozec. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour la financière Arbevel et vous nous accompagnez régulièrement pour suivre un petit peu ce secteur de la santé. Comment se porte-t-il actuellement? Parce que on en a moins parlé avec l'épidémie de Covid qui s'est un peu éloignée. Et puis là, depuis quelques semaines, d'ailleurs dans la sélection de BFM Patrimoine, nos gérants y sont revenus. Enfin voilà, on commence à reparler du secteur de la santé. Comment il se porte en ce moment?
Boursièrement parlant, ça a été une cata pendant des années. Je parle plutôt pour les petites sociétés. C'est le plus long épisode sur les 40 dernières années de baisse. Et c'est une sorte d'hiver nucléaire qui a duré presque 5 ans. Donc c'est quand même assez significatif. Ce qui veut dire que vous avez une chute des valeurs, une chute des valorisations des entreprises et donc une moindre capacité à lever de l'argent. Avec évidemment des exceptions notoires, hein, des boîtes comme Moderna qui ont explosé à la faveur de la crise sanitaire. Mais pour beaucoup, beaucoup de petites entreprises cotées, ça a été une catastrophe et en particulier en France. À l'échelle du non coté, ça a été les 3-4 dernières années ont été très bonnes. Là, c'est en train de se retourner. Ça devient beaucoup beaucoup plus compliqué de se financer. Nous, on le voit à travers notre portefeuille de sociétés non cotées. Malgré de bons résultats, vous pouvez vous trouver dans une situation un peu embarrassante pour trouver de l'argent.
Et j'imagine que ce panorama, là, on va mettre des guillemets parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais la crise bancaire actuelle n'augure de rien de bon. Enfin,
Non seulement ça, mais Silicon Valley Bank, c'est une des banques principales pour les start-up dans le domaine de la santé aux États-Unis. Moi qui ai dirigé plusieurs startups dans ce domaine-là, je les ai souvent vus. J'ai même placé de l'argent chez eux il y a quelques années. Je leur ai même emprunté de l'argent. Et c'est vrai aussi malheureusement en Europe. Ça a clairement ça a un impact très court terme. Et puis ça va avoir un impact un petit peu plus long terme. On le sent bien. Il y a aujourd'hui une frilosité qui a. C'était curieux d'ailleurs parce qu'il y a eu un phénomène de début 2022, il y a une reprise de d'enthousiasme, l'invasion de l'Ukraine. Donc là tout retombe, novembre ça repart et là c'est à nouveau on est reparti dans un cycle assez négatif, ouais.
Et vous évoquiez tout à l'heure un petit peu le non-coté, donc on se rapproche du private equity, etc. C'est aussi un peu une partie de votre boulot de mobiliser des capitaux pour ces entreprises. Là aussi, il y a des doutes, il y a de la prudence où ce monde du private equity est pour le moment un peu épargné.
Non, c'est alors il y a deux types de private equity. Si vous, pour caricaturer dans le domaine de la santé, vous avez les gens qui font qui vont investir dans des sociétés en développement. Donc c'est de l'amorçage et du capital risque. Là, ce sont des sociétés qui ont une bonne idée, qui ont des résultats sur quelques modèles cellulaires ou animaux et qui veulent tester un nouveau médicament ou un nouveau dispositif médical. Donc ça va à peu près, mais il va être compliqué de lever de l'argent dans les prochains temps. Et puis ensuite, vous avez les gens qui vont investir dans des sociétés plus matures, qui font du chiffre d'affaires, qui ont des résultats positifs. Et là, en ce moment, c'est très tendu pour une raison très simple, c'est que la plupart de ces investissements reposent sur de la dette. Alors, pourquoi ça va être plus tendu sur on comprend bien pour le deuxième fragment pourquoi c'est plus tendu, mais pour le premier, ça va être plus tendu parce que les gens qui souscrivent dans leur fonds, donc c'est des gens qui font du fonds de fonds, ce qu'on appelle des souscripteurs en bon français et en mauvais français, des limited partners, des LPs. Les LPs, eux, aujourd'hui sont dans des situations compliquées. C'est des assureurs, des mutuelles, des caisses de retraite et ainsi de suite. Pourquoi ils sont dans une situation compliquée? Parce qu'en fait, l'année dernière, les actions et les obligations ont baissé de 15%, ce qui fait que le ratio entre ce qui est illiquide et ce qui est liquide, donc illiquide typiquement l'infrastructure, de l'immobilier et du private equity, eh ben ces ratios sont décalés et aujourd'hui n'ont plus aucune marge de manœuvre.
Et c'est ça. Bon, voilà, ça c'est de la théorie puis parfois un peu de pratique, mais surtout il faut l'illustrer pour nos auditeurs et régulièrement vous avez la sympathie de venir avec un exemple pour qu'on comprenne mieux un petit peu comment on finance, à quoi ça sert et puis surtout qu'est-ce que ça donne le plus concrètement possible. Ce que vous vouliez mettre en lumière ce matin, c'est MaxBrain.
Voilà.
Dites-nous tout, tiens.
Voilà, c'est une société de notre premier fonds de private equity chez Financière Arbevel. C'est un fonds d'une quarantaine de millions d'euros, on a fait 11 investissements, 10 en France, pour l'essentiel en région. On a fait la clôture de ce fonds en janvier 2020. On a vendu déjà deux sociétés avec des multiples de 4 et des multiples de 2. J'en profite pour faire un peu ma pub puisque je suis en train de lever un nouveau fonds, cette fois de 100 millions d'euros et qui devrait commencer à investir au mois de mai.
Bon.
MaxBrain, c'est l'un de nos derniers investissements du premier fonds. Une société lyonnaise qui repose sur des travaux d'une équipe universitaire de l'Université de Lyon, dirigée par François Lux et Olivier Tillman, avec qui on avait déjà investi dans une autre société. Et ils ont mis au point une dialyse intelligente. L'idée, c'est que on va utiliser la dialyse pour détoxifier le sang de patients sur des thématiques spécifiques. En l'occurrence, là, c'est enlever des métaux non souhaités du sang de patients. La première indication, c'est la maladie de Wilson, qui est une maladie génétique très rare, qui engendre un taux de cuivre très élevé dans le sang chez les patients et qui est délétère au bout du compte. On a démarré un essai clinique en Espagne. On espère démarrer un essai clinique en France. Et parallèlement, on va déposer une demande pour traiter l'insuffisance rénale aiguë, qui est un sujet beaucoup plus vaste, et où on a démontré sur des modèles cellulaires et des modèles animaux qu'en fait, quand on enlevait beaucoup de fer, parce qu'il y a, au moment de ces grands événements d'insuffisance rénale, il y a une libération par les cellules de fer dans le sang qui est très, très, très délétère. Et on a montré sur tout un tas de modèles au cours des dernières années qu'on arrivait à arrêter l'insuffisance rénale aiguë. Donc on va démarrer un essai clinique d'ici la fin de l'année. Donc voilà, nous, notre investissement sur le premier fonds a servi à ça. On en est très fiers. On a beaucoup de belles histoires comme ça, quasiment que des histoires en France. Et on a contribué à créer plus de 500 emplois.
Ce qui est génial, c'est que vous dites « on ».
Ah oui, oui, oui.
Donc c'est pas très... juste on pose du pognon, c'est...
Non, on est très impliqués. Ouais. On est très impliqués. MaxBrain, c'est une entreprise où on a vraiment constitué le tour de table avec les dirigeants. On a mis en place une formule qui est assez peu courue dans notre domaine, où on dit, nous on va faire tant de retours sur investissement, et au-delà de ce retour sur investissement, si vous faites mieux, le reste, on va le partager très largement en votre faveur. Voilà, c'est notre philosophie d'investissement.
Marc Lebozec et Financière Arbevel, merci beaucoup d'être passé nous voir. Marc, le marché parisien, lui, reste pour le moment bien orienté. On est à 7076 points.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Ce marché qui a touché ses plus hauts dans la première demi-heure de cotation et qui, après s'être un petit peu posé des questions aux alentours des 7040 points, remonte un petit peu, 7076 plus 0,87. Euh, le, f- Le format de la séance est un peu le même d'ailleurs partout en Europe. Les meilleures performances, Téléperf plus 3,83, Eurofins Scientifique plus 2,91, Orange plus 2,90 et puis quelques dégagements sur Pernod, sur Soggen ou encore sur Total Energy. L'eurodoll est à 1,0769.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et comme chaque lundi à 7h06, c'est Christian Fontaine qui nous rejoint. Bonjour Christian.
Bonjour Cédric. Bonjour.
Pour la rédaction du Revenu, vous poursuivez votre série sur la retraite, plus particulièrement sur l'épargne retraite et les décisions à prendre en fonction de notre tranche d'âge. Il y a 15 jours, on s'adressait aux trentenaires. Aujourd'hui, les cadras. Qu'est-ce qu'on fait à 45 ans si on veut s'intéresser à sa retraite, si on veut compléter sa pension?
Alors c'est vrai que 45 ans, c'est un âge où les revenus deviennent plus significatifs. C'est un âge où souvent on est en cours d'acquisition, voire on a terminé de payer sa résidence principale. C'est un peu l'âge idéal pour commencer à se constituer une épargne retraite diversifiée en bourse, immobilier, assurance vie. Vous l'avez peut-être noté, mon cher Cédric, en janvier, l'Ipsos a posé une question très simple auprès de 1000 Français. Quel est le meilleur placement pour la retraite ? Première réponse, le placement qui est sorti en tête de ce sondage, cité par 25% des Français, le livret A. Et oui, le livret A. Arrive en seconde position l'assurance vie, 24%, le PER, 22% et le PEA, 7%. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pour autant que le revenu a recommandé le livret A lorsqu'on a
le livret A
quand on a 45 ans pour préparer sa retraite? Vous, votre sourire en dit long et vous avez entièrement raison, la réponse est non. Et en fait, même si ma volonté n'est pas forcément de me montrer contrariant ou de prendre les Français à rebrousse-poil, le revenu considère qu'à 45 ans, le meilleur placement pour la retraite, c'est le PEA, le plan d'épargne en action, qui, je vous l'accorde, n'est cité que par 7% des Français.
Donc c'est le placement privilégié, 45 ans.
C'est le placement à privilégier. Alors pourquoi c'est le placement à privilégier? D'abord parce que c'est un placement rentable qui peut ou prou rapporte entre 7 et 8% par an. Ensuite, c'est un placement qui est peu fiscalisé puisque vous payez que 17,2% de prélèvements sociaux sur vos gains, 0% d'impôts. C'est un placement totalement liquide. Vous pouvez récupérer votre argent à tout moment, même si pour des raisons fiscales, il faut mieux le conserver pendant 5 ans. Et puis c'est un placement où vous pouvez optimiser les frais en vous débrouillant bien. Vous pouvez limiter les frais à 0,2, 0,3, 0,4% par an. Alors vous allez me dire, oui mais le PEA c'est la bourse, les Français ne veulent pas en entendre parler. Et oui, mon bon monsieur, mon bon madame, si jamais les marchés financiers s'effondrent la veille du jour de mon départ à la retraite, donc je serai ruiné.
Eh oui.
Alors, que nini, ça tient vraiment de la fake news. Pour deux raisons. D'abord, personne, donc aucun retraité, aucun jeune retraité, ponctionne la totalité de son épargne retraite l'année de son départ à la retraite.
Oui. À 60 ans. Au pire, on commence à taper dedans, mais.
Au pire, si les marchés s'effondrent la veille du jour de votre départ à la retraite, eh ben, vous pouvez éventuellement faire un minimum le truc. En tout cas, vous avez le temps de vous refaire, puisque l'espérance de vie moyenne à 60 ans est pour un 4, c'est plutôt de 25 ans. Bon, donc si vous constituez un capital retraite, vous n'allez pas retirer l'intégralité de la première année de votre départ à la retraite. La deuxième raison, c'est qu'il faut sortir la calculette. Si vous commencez, si à 65 ans, vous placez 100 euros en bourse, rémunérés à 7%. 100 euros, à 65 ans, ces 100 euros seront 400 euros. Donc, même si les marchés financiers s'effondrent et perdent 50%, ce qui est très théorique, la veille du jour de votre départ à la retraite, vous aurez encore 200 euros. Et donc, vous aurez encore un capital qui sera
égal
au double de la mise de départ. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, à 45 ans, le meilleur placement retraite, ce sont les actions.
Bon, je vais pas vous casser votre baraque quand même, mais vous passez votre temps, Christian, à nous dire faut diversifier et encore diversifier. Et puis là, vous me dites, allez, on met tout sur le rouge, tout sur le PEA.
Alors, en fait,
il y a d'autres produits qui peuvent servir aussi l'assurance vie, par exemple.
Vous avez entièrement raison. Là, vous parlez d'enveloppe fiscale. Il faut bien sûr diversifier. Oui, vous avez raison. On peut investir en bourse via l'assurance vie. On peut investir en bourse via le plan d'épargne entreprise. Oui, on peut investir en bourse via le plan d'épargne retraite. On en parlera plutôt la semaine prochaine. C'est plutôt pour les quinquas que pour les quadras. Mais derrière cette enveloppe fiscale, il y a le sous-jacent. Puisque au sein des enveloppes fiscales que vous venez de citer, on décide d'investir sur des classes d'actifs plus ou moins risquées. Lorsque je dis qu'il faut tout mettre sur le PEA, en fait, il faut quasiment tout mettre en action. Alors, c'est vrai que c'est un lieu commun de dire, c'est une idée reçue de dire que le placement en action est le plus rentable sur le long terme. Oui, c'est vrai, mais toutes les idées reçues ne sont pas des fake news. Les comparatifs réalisés par la presse patrimoniale le montrent très clairement. Sur 30 ans, le placement en action, dividendes réinvestis, le CAC 40 exactement, pour être plus précis, les entreprises du CAC 40, le cours des actions des entreprises du CAC 40 a progressé de 7,5% en moyenne par an, dividendes réinvestis, 4,25%. Si hors dividendes, les SICA monétaires, le livret A et l'assurance vie en euros sont très très loin derrière, mon cher Cédric.
Bon, juste pour terminer, donc PEA, enfin en tout cas, investir sur le monde action, malgré tout, gérer son PEA, c'est à la portée de tout le monde ?
Alors, c'est pas plus compliqué que de gérer un locataire en direct et vous aurez les problèmes de chaudière ou de chauffe-eau en moins. Bon. Mais par contre, là où vous avez raison, c'est qu'il faut un minimum de méthode. Il faut choisir avec soin son enveloppe fiscale, on en a déjà beaucoup parlé. Il faut choisir avec soin son courtier. Le Revenu recommande un établissement 100% en ligne. Vous citez régulièrement Bourse Directe. C'est vrai que Bourse Directe est une plateforme de passage d'ordre efficace avec une tarification avantageuse, notamment pour les petits ordres et les investisseurs actifs. Au Revenu, on préfère plutôt les intermédiaires qui ont une offre, je dirais, d'épargne et de banque au quotidien la plus large possible, les prennent que leurs les crédits et les placements, et puis bien sûr qui distribuent un contrat d'assurance vie primé par la rédaction, donc plutôt Boursorama, Fortuneo. Les néo-brokers sont aussi intéressants. Leurs tarifs sont très compétitifs. Attention, ils ne proposent pas forcément le SRD, le PEA ou l'IFU. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc oui, il faut de la méthode pour gérer un portefeuille titre en direct, mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, bien sûr, il y a d'autres enveloppes fiscales, notamment le PER, mais là, on en parlera plutôt la semaine prochaine. C'est plutôt destiné aux quinquagénaires.
Et Christian, on vous retrouvera tout à l'heure pour les questions, mais aussi sur les supports digitaux avec Julie Cohen-Horton. Julie.
Et oui, on se retrouve à partir de 12h15 en direct sur tous nos réseaux sociaux pour poursuivre cette discussion. Quels sont les arbitrages que vous pouvez opérer pour bien préparer votre retraite à partir de 40 ans? On va tout vous expliquer avec notre expert du jour, Christian Fontaine, pour Le Revenu. Et d'ici là, écrivez-nous, posez-nous vos questions à l'adresse bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Cédric.
À suivre, d'ici là, un petit détour par les infos, par les marchés et à suivre, regard croisé. À tout de suite.